VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 8 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, des incidents ont été signalés dans les deux régions anglophones du pays lors de la présidentielle d'hier.
En République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU exhorte les partis en présence à dialoguer pour parvenir à une entente sur la machine à voter.
Au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar ont été désignés candidats de leurs partis respectifs pour la présidentielle de 2019.
Les États-Unis et la Corée du Nord sont d'accord pour organiser un deuxième sommet Donald Trump-Kim Jong-un le plus tôt possible.
Inquiétude persistante quant au sort de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien porté disparu après être entré au consulat de son pays à Istanbul.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, la présidentielle d'hier a été émaillée d'incidents dans les deux régions anglophones du pays. Le bilan officiel de ces incidents est de 3 personnes tuées à Bemenda, selon le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjek, contacté par VOA Afrique. Pour des précisions, notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julenta.
Les séparatistes anglophones avaient annoncé des troubles et des actes de violence le jour du scrutin présidentiel au Cameroun. Ils sont passés à l'acte dans la ville de Bamenda dès les premières heures de la journée d'hier. Montés sur des motos, 4 hommes armés ont fait des tirs de sommation sur des populations pour les intimider à ne pas participer au vote. Une patrouille de l'armée de l'air qui passait par là a mis en déroute 3 de ces 4 hommes, selon colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise. Des armes et plusieurs munitions ont été saisies au cours de cette même opération. Non loin de Bamenda, cette fois à Bafout, un groupe de séparatistes anglophones a été refoulé. Ils venaient incendier le bureau de vote, a confié une source de sécurité à VOA Afrique. Hormis ces deux attaques dans la région du Nord-Ouest, des tirs ont retenti à Boya dimanche matin et des accrochages enregistrés entre les forces de défense et de sécurité dans les localités comme Bongay, Albert Mukong Avenue ou encore dans la ville de Mamfé, toujours dans le Sud-Ouest. Les séparatistes anglophones ont déclaré avoir tué des militaires camerounais au cours de la journée du dimanche, information démentie par colonel Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise. Les autorités militaires assurent que ces différents incidents n'ont pas eu un impact sur le taux de participation à l'élection présidentielle en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur les élections camerounaises en seconde partie de cette édition avec notre envoyé spécial Bagassi Koura.
En République démocratique du Congo, un plus large consensus autour de la question de la machine à voter, telle est la principale recommandation du Conseil de sécurité de l'ONU sur le processus électoral en RDC. À la fin de sa mission de 2 jours à Kinshasa et après échange avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les autorités congolaises, l'opposition et la société civile, la délégation du Conseil de sécurité a recommandé aux partis en présence de dialoguer pour parvenir à une entente. Les détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous n'avons rien laissé sous la table. Nous avons évoqué toutes les questions avec nos interlocuteurs dans la plus grande transparence. La machine à voter a été évoquée. Nous avons rappelé la position du Conseil de sécurité et appelé par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élection réellement crédibles et transparentes, se déroula dans un climat apaisé, a dit François Delattre, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies, au cours de la conférence de presse organisée dimanche au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. La délégation du Conseil de sécurité qui a échangé avec le président Kabila, le bureau de la CENI, les candidats présidents de la République et la conférence épiscopale nationale du Congo a par ailleurs salué le respect des étapes du calendrier électoral et insisté pour que la suite du processus électoral se déroule dans le respect de la Constitution, de la loi électorale et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Kinshasa. Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la présidentielle de février 2019 opposera deux habitués de la politique, le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Ils ont été désignés candidats de leur parti respectif ce week-end. Claire Morin-Jibou.
À peine adoubé candidat par son parti l'APC, le chef de l'État, Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, a ouvert la campagne en mettant en doute l'honnêteté de son futur adversaire. Dans un communiqué, tout en félicitant Atiku Abubakar de sa nomination, le président Buhari a jugé son élection suspecte, relayant des articles de presse faisant état d'achat massif de voix aux primaires. On peut se demander ce que ferait un tel candidat avec des fonds publics, s'est-il interrogé. Ancien vice-président du Nigeria, Atiku Abubakar s'est déjà présenté 4 fois à la présidentielle sans succès. Musulman polygame et père de plus de 20 enfants, l'homme d'affaires est arrivé en politique par hasard après avoir fait fortune en travaillant dans les douanes et dans l'import-export. Sa richesse a toujours été ternie par des accusations de corruption ou des scandales de conflits d'intérêts, mais aucun de ses détracteurs n'a réussi à en apporter les preuves.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Corée du Nord sont d'accord pour organiser un deuxième sommet Donald Trump-Kim Jong-un le plus tôt possible, a annoncé hier la présidence sud-coréenne à Séoul, après la rencontre entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. De passage à Séoul dans le cadre de sa tournée asiatique, Mike Pompeo a évoqué sa conversation productive d'hier avec l'homme fort de Pyongyang qui marque, selon le chef de la diplomatie américaine, un nouveau pas en avant.
Dernier rebondissement dans l'affaire Jamal Khashoggi, du nom du journaliste saoudien disparu après être entré au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. La police turque estime que ce critique du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui écrit entre autres pour le Washington Post, a été tué au consulat par une équipe venue spécialement à Istanbul et répartie la même journée. C'est ce qu'a indiqué samedi une source proche du gouvernement turc. Riyad a fermement démenti.
Le président syrien Bachar al-Assad a qualifié de mesure temporaire l'accord russo-turc créant une future zone démilitarisée à Idlib et dans sa périphérie. Il assure que ce territoire aux mains des rebelles reviendra à son régime.
Au Brésil, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est qualifié facilement dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle sur un gros score, mais il se retrouvera face à la gauche dans un duel à l'issue incertaine. Avant que ne tombent les résultats, le situant à 46,06% avec 99,99% des urnes dépouillées, loin devant Fernando Haddad du Parti des travailleurs à 29,24%, Bolsonaro a évoqué des problèmes avec les urnes électroniques.
En Haïti, au moins 12 personnes ont été tuées et 188 blessées dans le nord-ouest, secouées samedi soir par un séisme d'une magnitude de 5,9 qui a créé la panique dans l'île, ont annoncé les autorités. Le président Jovenel Moïse s'est rendu dimanche matin à Port-de-Paix et à Gros-Morne. Son premier ministre Jean Arisséan est également sur les lieux pour superviser les équipes de secours et coordonner leurs actions. La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa veut créer 275 000 emplois par année pour abaisser le taux de chômage dans le pays. Son plan général de relance économique prévoit un investissement de près de 7 milliards de dollars en faveur des entreprises locales appartenant aux Noirs et une augmentation du commerce horticole sud-africain jusqu'à 6 milliards de dollars d'ici 2030. Les principaux acteurs du développement, des universitaires, des chercheurs, des partenaires au développement, des responsables politiques, des financiers, se sont réunis à Kigali, au Rwanda. À l'agenda, intégration régionale et continentale au service du développement de l'Afrique, la rencontre s'est appuyée sur l'accord de libre-échange pour le continent. La réunion a examiné notamment les moyens de réduire les coûts des entreprises et de mise en place de chaînes de valeur viables pour l'agriculture, les produits de base et les services. L'ABAD a déjà octroyé un don initial d'environ 5 millions de dollars pour aider la Commission de l'Union africaine à faire de l'accord de libre-échange une réalité. La Société américaine de financement du développement international, c'est une institution que Washington va utiliser pour tenter de contrer l'influence grandissante de la Chine dans les pays en développement et plus particulièrement en Afrique. L'USAIDFC aura la capacité de mobiliser 60 milliards de dollars et sera aussi autorisé à réaliser des investissements en actions et à prendre des participations dans des entreprises ou des projets en cours de développement.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football avec les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans et la CAF en a sorti le calendrier.
Oui, cette compétition aura lieu l'année prochaine en Égypte et 43 pays prendront part aux qualifications à partir du 12 novembre prochain. À noter que 13 sélections sont exemptées de ce premier tour. Au total, 7 billets sont à prendre pour la phase finale. L'Égypte est qualifiée d'office et cette compétition délivrera 3 billets pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Le foot, ce sont aussi les éliminatoires de la CAN 2019 qui arrivent à grands pas.
Et après un début compliqué, un point en deux journées, le Cap-Vert doit se relancer face à la Tanzanie les 12 et 16 octobre prochains à l'occasion des 3e et 4e journées. Pour cette double confrontation, le sélectionneur Rui Agas a retenu 25 joueurs, dont Steven Fortes de Toulouse, Nuno Da Costa de Strasbourg et Ryan Mendes, ainsi que les cadres Bambanco, Platini, Gary Rodriguez et Eldon, initialement convoqués. L'attaquant de Dijon, Julio Tavares, a en revanche déclaré forfait sur blessure, tout comme le défenseur Diné Borges d'Estoril, absent pour raisons personnelles. Marco Suarez et Eli Fernandez ont été appelés en renfort pour les remplacer.
Troisième et quatrième journée sans la participation de la Sierra Leone.
Effectivement, Idrissa, la FIFA a annoncé qu'elle suspend sa fédération de football. Cette sanction fait suite à la décision des autorités de suspendre la présidente de l'instance Isha Joassen et son secrétaire général Chris Camara. Ces deux personnalités font en effet l'objet d'une enquête pour corruption présumée. Considérant qu'il s'agit d'une ingérence gouvernementale, la FIFA a prononcé la suspension de toutes les équipes nationales de la Sierra Leone et tous ses clubs au niveau international. Si rien n'évolue d'ici là, les Lone Stars ne pourront pas affronter le Ghana comme prévu dans les éliminatoires de la CAN 2019 les 11 et 15 octobre prochains et une autre disqualification est à craindre.
Coupe arabe des clubs, l'Union des associations de football arabe a décidé d'augmenter la prime réservée aux vainqueurs de la Coupe cette année.
La formation qui remportera le trophée cette saison devait toucher pour un premier temps 6 millions de dollars. L'UEFA a décidé de porter cette somme à 7,5 millions de dollars. Le malheureux finaliste recevra la belle somme de 4 millions de dollars au lieu de 2,5 millions de dollars.
Direction la Guinée et entre Oroya et Victor Zouvunka, c'est fini.
Le technicien français entraînait le club de Matam depuis 3 ans. L'équipe qu'il a hissée en quart de finale de la Ligue africaine des champions cette saison. Une première dans l'histoire du club. L'entraîneur de 66 ans ne s'est pas entendu avec ses dirigeants sur une prolongation de contrat qui arrive à terme. Il quitte donc la Guinée sur un doublé coupe championnat et aura donc remporté 3 titres nationaux en 3 ans.
Athlétisme pour terminer, le Britannique Mo Farah a remporté hier le marathon de Chicago.
Oui, et il signe sa première victoire sur cette distance avec un record d'Europe à la clé. En 2h05 minutes 11 secondes, roi incontesté du demi-fond avec 4 titres olympiques et 6 titres de champion du monde sur 5000 et 10 000 mètres. Farah, progressivement passé de la piste à la route ces dernières années, participait seulement à son 3e marathon. Chez les femmes, la Kenyane Brigitte Kosgei, 2e l'an dernier, s'est imposée en 2h18 minutes 36 secondes devant les Éthiopiennes Rosa Dereje et Shor Demiz.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les élections au Cameroun. Comme il fallait le craindre, des incidents armés ont eu lieu dans les zones séparatistes anglophones. Des événements que les autorités n'ont pas voulu ouvertement évoquer à Yaoundé, la capitale, où l'élection s'est déroulée dans le calme, nous dit notre envoyé spécial Bagassi Koura.
L'heure du décompte des voix, peu après 18h, à l'école publique Efoulan A de Yaoundé. Maurice Kamto. Tout au long de la journée, les élections se sont déroulées dans le calme à Yaoundé. Du fait d'un décret pris la veille interdisant la circulation routière, ce dimanche a été sans embouteillage dans la capitale. Le président sortant, Paul Biya, qui brigue un septième mandat à 85 ans, a voté peu après midi dans l'école publique de Bastos, dans le premier arrondissement.
Je vois que les choses vont bien, il n'y a pas de bagarre, la campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité.
Peu avant lui, à l'école publique Efoulan A, Cabral Libi, le plus jeune des candidats, a glissé son bulletin dans l'urne. Déjà, dans la matinée, Cabral Libi s'est plaint de l'organisation mise sur pied par Elections Cameroun.
Abouya, ce matin, dans un bureau de vote, notre représentant a été refoulé par le maire, juste parce qu'il refusait que des gens n'ayant pas de carte votent. Dans d'autres bureaux de vote, même, Abouya ne sont toujours pas ouverts à l'heure où nous parlons.
Mais la journée a été marquée, comme on le craignait, par des violences dans les deux zones anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Au moins 3 personnes ont été tuées.
Dans l'ensemble, les opérations de vote se sont bien déroulées à l'intérieur du pays.
Vers 20h, Eric Essoussé, le directeur général de ELECAM, la commission électorale, a convié la presse pour faire le point de la journée. Il s'est félicité du bon déroulement du scrutin. À une question de VOA Afrique sur la situation en zone anglophone, il a dit ne pas être au courant d'incidents mortels.
Et ça peut arriver qu'il y ait eu quelques incidents ici et là, mais ils n'ont pas été de nature à perturber le déroulement du processus électoral.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, s'est inscrit sur cette même lancée, insistant qu'il n'y a pas eu d'incidents mortels en zone anglophone. Pourtant, l'armée a indiqué avoir abattu dans la journée 3 séparatistes anglophones qui tiraient sur des passants à Bamenda. Joint au téléphone par VOA Afrique, le colonel Didier Badiek, porte-parole de l'armée camerounaise, donne les détails de cet incident.
L'accrochage a lieu et immédiatement on les neutralise. Chez nous, le verbe neutraliser, ça veut dire tuer. Il y a un qui a une arme M21 et il y a deux autres qui ont deux calibres 12 avec plusieurs munitions.
Les résultats du scrutin seront proclamés par le Conseil constitutionnel dans 2 semaines. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, octobre, c'est le mois des primaires pour les partis politiques, appelés à désigner leur candidat à la présidentielle de février 2019. Le parti d'opposition PDP, nous vous le disions en première partie, a choisi l'ancien vice-président Atiku Abubakar pour affronter le président sortant, Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique à Abuja.
Porté par plus de 1500 supporters, l'ancien vice-président Atiku Abubakar est donc devenu le candidat officiel du PDP dans la course à la présidence du pays le plus peuplé d'Afrique lors de son congrès dans un grand stade dans la ville pétrolifère de Port Harcourt dans le sud du Nigeria. Un candidat ému après son élection qui veut rassembler autour de lui non seulement son parti, sa famille, mais il veut aller au-delà, se tourner désormais vers tous les Nigérians, comme il a indiqué.
Nous observons aujourd'hui un événement spécial et donc nous avons une grande opportunité pour redonner le pouvoir au PDP dans ce pays. L'histoire nous oblige tous en ce moment précis pour rassurer que le pouvoir reviendra effectivement au PDP.
Pour ce congrès, les partisans du PDP devaient gagner le pari du rassemblement après des désaccords qui ont secoué ces grands partis d'opposition au Nigeria ces dernières années. Réaction de certains délégués au congrès qui a permis l'élection du candidat Atiku Abubakar.
C'est bon, Atiku est le vainqueur parce que dans mon village, il y a un adage qui dit que la grossesse ne restera pas cachée, elle doit accoucher d'un bébé. C'est une une grande victoire, même si beaucoup d'autres États étaient venus avec leurs candidats. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la victoire à Atiku. Même si nous venons de Nassarawa, nous devons tous nous rassembler autour de lui et même les autres candidats pour soutenir Atiku pour 2019.
Homme d'affaires âgé de 72 ans, deuxième vice-président élu du Nigeria de 1999 à 2007 sur la plateforme du Parti démocratique du peuple, PDP, aux côtés du président Olusegun Obasanjo. Il a fait défection à nouveau en mai dernier au PDP où il a décroché dimanche le ticket pour affronter le président sortant Buhari à l'élection présidentielle de 2019. Le président Muhammadu Buhari, qui a été lui aussi confirmé candidat du parti au pouvoir lors d'un congrès tenu également durant le week-end à Abuja, la capitale fédérale. Le président candidat a accepté sa désignation comme candidat du parti au pouvoir pour un second mandat.
J'accepte cet honneur comme un hommage et une marque de confiance pour assumer la responsabilité au moment où nous nous rassemblons tous pour continuer le bon travail du gouvernement APC. Et cela jusqu'en 2023 et au-delà.
Atiku Abubakar aborde ainsi la dernière ligne droite dans sa course vers la présidence du Nigeria, celle où désormais ce sont les Nigérians inscrits qui désigneront le vainqueur de la présidentielle de février 2019 prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Togo, les organisations de défense et de promotion des droits de la femme, regroupées au sein du collectif Non, c'est non, ont tenu un sit-in devant le ministère de l'Action sociale à Lomé. Le collectif veut dénoncer ainsi les cas de violences sexuelles dont les Togolaises sont victimes et la publication des photos montrant la nudité des femmes et jeunes filles sur les réseaux sociaux. Le viol, les violences sexuelles et le revenge porn, des fléaux dont nous parle notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Nous sommes des femmes et il y a des choses que nous n'acceptons pas.
Il y a environ 3 semaines, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant une tentative de viol a suscité l'émoi au Togo. Il s'agit d'une première image d'une longue série montrant la nudité des jeunes filles togolaises dans des situations peu recommandables. Le Togo se voit ainsi confronté à une nouvelle forme de violence sexuelle. Florence Potisson, porte-parole du collectif Non c'est non, un regroupement d'associations engagées contre le viol.
La question du viol a toujours été abordée effectivement au Togo, mais aujourd'hui nous remarquons une recrudescence de ce phénomène avec un autre volet, le revenge porn. Et nous voyons nos sœurs, femmes comme nous, qui sont exposées. Le phénomène est de plus en plus récurrent parce qu'il est accentué avec les terminaux que nous avons, les réseaux sociaux que nous utilisons tous les jours. Et peut-être de la mauvaise façon.
Pour les Togolais interrogés sur la question, ils réclament justice pour les victimes.
Il est temps que les responsables soient trouvés et véritablement punis par la loi afin d'éviter aux victimes de souffrir doublement de l'acte qui leur est arrivé. Non seulement la vie de ces victimes sont détruites d'un point de vue psychologique, mais le fait de republier ces images sur les réseaux sociaux ne permettent pas à ces victimes de dépasser cette situation-là.
Il y a certaines vidéos, certaines images qui vilipendent la femme. Donc on aimerait que les autorités puissent s'en charger et que le problème soit réglé le plus vite possible. Parce que du moment où ça nuit aux droits de l'être humain, c'est plus que profond.
Nous sommes des femmes et il y a des choses que nous n'acceptons pas. Pourquoi ces images passent et personne ne réagit au Togo ? Que l'État togolais réagisse pour qu'on arrête ces personnes qui vilipendent la femme.
20% des femmes togolaises ont eu à subir des violences sexuelles, y compris l'inceste, la pédophilie et le viol. Dénoncer le viol pour obtenir justice n'est pas encore dans les habitudes, relève Michel Agué, secrétaire général du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement, GF2D.
Le viol n'est pas dénoncé parce que les victimes ont souvent peur, parce qu'elles sont stigmatisées. Déjà, lorsque la première vidéo est sortie, les réactions sont mitigées. Les gens disent que c'est parce que la fille, elle a voulu avoir la vie facile, c'est parce qu'elle a provoqué, c'est parce qu'elle a fait ci. Et au-delà de cette vidéo-là, celles qui ne sont pas mises sur les réseaux sociaux, on voit des cas où on dit que c'est parce que la fille s'est mal habillée, c'est parce que la fille est de mœurs légères, c'est pourquoi elle a subi ce viol-là. Celles qui ont le courage de pouvoir dénoncer lorsqu'il s'agit par exemple d'intenter une action en justice, vous allez les voir après se rétracter. Nous avons également même des cas de viol sur des petites filles où les parents ils disent « je préfère peut-être trouver un arrangement à l'amiable que d'aller à la justice ».
Au Togo, le viol est un crime et reconnu comme tel par le code pénal. Il est puni d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, tenu ce week-end à Ouagadougou de la 5e édition du Rebranding Africa Forum 2018, il a réuni plusieurs centaines de participants venus du monde entier pour parler de l'économie verte en Afrique. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, fait le point.
Les 4 précédentes éditions du Rebranding Africa Forum se sont tenues à Bruxelles, en Belgique. Pour la première fois, le continent africain abrite le forum à Ouagadougou. L'occasion pour le prix Nobel Alternatif 2018, surnommé l'homme qui a arrêté le désert, le Burkinabé Yacouba Sabadogo, de faire un plaidoyer pour le changement des comportements en faveur de l'environnement.
Ce que j'ai comme mot à dire à toutes les populations burkinabè, c'est de mettre l'accent sur la protection des terres arides, la protection de l'environnement. Mettre l'accent sur les sols et la meilleure richesse de tous les arbres, les espaces qui sont en disparition.
Julia Artigas Sancho, une Espagnole basée à Bobo-Dioulasso, a fondé son entreprise dans la transformation agro-industrielle, a participé au forum.
On travaille beaucoup dans la conversion des déchets en énergie. On se spécialise beaucoup sur les sous-produits de l'anacarde. À Bobo-Dioulasso, il y a beaucoup d'industries de l'anacarde. Et en général aussi en Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Côte d'Ivoire justement, pour promouvoir ces sous-produits de la coque d'anacarde qui peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée en tant que biocombustible solide, biocombustible liquide. On développe des technologies appropriées. On croit vraiment que c'est en agissant sur les sous-produits, c'est-à-dire sur ce qui maintenant est en fait un déchet, qu'on peut donner de la valeur et rendre les entreprises agro-industrielles plus compétitives et donc plus durables.
Les organisateurs de Rebranding Africa Forum disent avoir fait le choix de l'économie verte pour un motif simple. Paul René Itogo, délégué général du 5e Rebranding Africa Forum.
L'Afrique, nous avons la chance d'être, disons, bénis par les dieux de mère nature avec un soleil sur 365 jours l'année. Dans d'autres pays, on doit faire des voyages pour aller vers le soleil. Nous avons des ressources naturelles que nous pourrions exploiter pour pouvoir assurer et améliorer le bien-être quotidien des populations locales. Aujourd'hui, nous sommes justement arrivés à la question de savoir comment utiliser le potentiel vert de l'Afrique en le transformant en une source de revenus et justement un levier pour la croissance économique des pays africains.
Les initiateurs du Rebranding Africa Forum disent être satisfaits de la tenue de la présente édition. Ils se préparent pour la 6e édition à Bruxelles, une édition qui mettra en avant les questions minières en Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Mountou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Arel Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.